Je veux d'abord dire merci au pasteur Antonio et maman pasteur. Parce que je vois avec ce couple qu'ils vont chez le Père Céleste, qu'il le remplit avec amour, et puis ils viennent chez nous, et ils donnent de cet amour, et ils donnent, et ils donnent, et puis ils rentrent chez leur Père Céleste, qu'il le re-remplit avec amour. Et on voit ça, et ça nous donne de la joie et aussi un confort exceptionnel de savoir que nous avons un pasteur et sa femme qui vont chez le Seigneur pour se remplir avec de l'amour pour nous le donner. Mais je veux aussi dire que c'est vraiment un honneur et une joie de faire partie d'une église qui est si unie. Je vois ça en vous, ça m'étonne, ça me donne de la joie. Et on peut le voir visiblement dans le progrès qu'on a fait dans la salle des enfants. Il y en a parmi vous qui viennent et vous donnent de votre travail, de votre énergie, de votre sueur et quelquefois du sang pour améliorer le bâtiment. Le bâtiment n'est pas l'église. C'est nous l'église. C'est le bâtiment, c'est là où nous nous rencontrons. Mais dans le bâtiment, ça aide de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir enseigner. Et nous disons merci pour ça. Mais je dis merci pour l'église qui construit le bâtiment. Il y en a parmi vous aussi qui ont donné de votre argent, qui ont donné de vos idées. Et je veux dire aussi courage aux parents, parce que bientôt, il y aura un endroit où on peut enseigner les enfants selon leur tranche d'âge. Ils peuvent entendre et je prie aussi qu'il y aura une garderie pour les petits. Vous priez avec moi? Super. Mais vraiment, ça me donne de la joie de voir comment vous faites quelque chose ensemble. Souvent, le travail qui se fait dans le cœur, on ne le voit pas tellement, sauf dans la figure avec le sourire et les yeux. Mais ici, on voit vraiment que vous travaillez ensemble et ça me donne de la joie. Prions. Ô Père Céleste, tu sais que j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai besoin de toi. S'il te plaît, remplis-moi avec ton esprit pour que je puisse faire ceci comme tu veux, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, amen. Je vais vous parler aujourd'hui des promesses de Dieu. Nous aimons les promesses de Dieu. Vous aimez les promesses de Dieu? Qui aime les promesses de Dieu? Oui, moi aussi. J'ai même un petit livret à la maison. C'est un livret des promesses de Dieu. Et il y a 2 ou 3 jours, j'avais 1 minute ou 2 pour lire parce que je suis maman. Mais j'avais 1 minute ou 2 et j'ai pris ce livret de promesses et j'ai lu promesse après promesse et promesse. Et dans 1 minute, j'avais un grand sourire en regardant ces promesses que Dieu a fait pour nous. Et il y a beaucoup de promesses dans ce livre. Nous aimons les promesses de Dieu parce que les promesses sont puissantes, parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont certaines et elles sont fiables. Quand je lis les promesses de Dieu, je sais que Dieu va faire ce qu'il a promis. Ce qui me remplit de paix, de joie, qui me console. Les promesses nous encouragent, c'est vrai? Ouais. Mais je crois qu'il faut aussi dire qu'il y a des promesses que nous aimons un peu plus que quelques autres promesses, n'est-ce pas? Il y a des promesses qui sont « Ah oui, ça c'est pour moi !» et d'autres promesses qui disent « Ah oui, c'est pour moi !» Par exemple, en Psaume 23, verset 6. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Yes! Mais il y a aussi Matthieu 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça, c'est aussi une promesse de Dieu. Il y a aussi Deutéronome 31:8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas.
ne craint rien et ne se laisse pas effrayer. Amen. Amen. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi.
Mais il y a aussi Marc 13, 13. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Amen.
Wow. Ouais. En plus, il y a 1 Chronique 16, 34. Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Ouais. Et Luc 14, 33. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Si tu peux répondre à toutes ces promesses avec la même quantité de joie, ça veut dire que vraiment tu fais confiance à ton Dieu. Mais souvent, des promesses de Dieu peuvent nous faire un peu d'hésitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la promesse de Dieu qu'on trouve en Jean 16, 33. Proclamée par Jésus. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Dans cette promesse, on voit, on va souffrir, mais il y aura une victoire. Souffrir, victoire. Les deux sont promis. Souffrir, victoire. Je vais le relire encore. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Nous voyons ce dont Jésus parlait dans la vie de David, quand Ziklag brûlait. Je vais vous raconter un peu d'histoire de David. Si vous ne connaissez pas l'histoire de David, ça se trouve en 1 Samuel 16 jusqu'à la au fin de la livre et un petit peu en 2 Samuel aussi dans la Bible. Mais pour vous capter un petit peu, David était le cadet d'une grande famille. Il avait 6 ou 7 grands frères. Qui ici a un grand frère? Ouais. Est-ce que c'est toujours une bonne chose d'avoir un grand frère? Tout le temps? Je suis contente que vous avez des grands frères exceptionnels. Mais des fois, des grands frères peuvent nous aussi causer des soucis. Moi, j'ai un grand frère. Et David, il avait 6 ou 7. Il était le cadet. La Bible dit aussi que son père était vieux quand David est né. Alors peut-être c'était une surprise. Et on a l'impression de la Bible que David était un peu, on ne faisait pas beaucoup d'attention à lui. On le laissait aller parce qu'on était trop occupé avec les autres enfants. Vous les parents, vous savez, le premier enfant reçoit plus d'attention que les autres. Le premier enfant, jusqu'à la naissance du deuxième, reçoit 100% de l'attention que les parents donnent aux enfants. Quand le deuxième est né, ça se divise. Et avec chaque enfant, ça se divise encore plus. Et le cadet, normalement, reçoit un peu moins, sauf dans des cas exceptionnels. Nous essayons de faire un cas exceptionnel chez nous. Mais c'est du travail. Probablement, on ne faisait pas beaucoup d'attention à David. On donnait quand même à David le travail de s'occuper des troupeaux de son père. Et ça, c'était un travail très, très important. Si vous vous souvenez, quand Jacob avait 12 fils, il donnait à beaucoup de ses fils le travail de s'occuper des troupeaux. C'était un travail pour plusieurs. Mais avec David, on l'a donné à lui tout seul. Alors on croyait qu'il était quand même capable de le faire, et ça à un très jeune âge. Peut-être c'était parce que les grands frères ne voulaient plus faire ce travail, on ne sait pas. mais on a l'impression que le cadet est tout seul avec les troupeaux. Et les troupeaux représentaient le revenu de la famille. Alors là, c'était une responsabilité très, très importante pour la famille. Et on a donné ça à David. Et le travail de berger, quelqu'un est berger ici? Moi non plus, mais j'ai lu un livre. Il y a beaucoup de travail pour être un berger. Il faut toujours veiller sur le troupeau pour vérifier qu'il n'y a pas de danger. Et des dangers sont, numéro un, des plantes poisonneuses qui peuvent tuer les moutons. Deuxièmement, les animaux, comme les serpents, les loups, les ours, des choses comme ça. On a toujours besoin d'être réveillé pour regarder les moutons ou les protéger par une barrière la nuit. C'est du travail. En plus, quand les moutons deviennent malades, ça fait encore plus de travail. Et David est là avec ses moutons. Les moutons, ils broutent, ils mangent. Et David est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est un jeune garçon, probablement de 10 ans. Et vous savez que les garçons de 10 ans ont beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Probablement, il prend un caillou, il le lance avec sa fronde, en attendant que les moutons mangent. Des fois, il prend sa harpe, il joue un peu de la harpe, il écrit une petite chanson là, et il veille sur les moutons. Et il est seul pendant longtemps. Et pendant ce temps de solitude, avec ses cailloux, avec sa harpe et avec son Dieu, David a découvert qui est son Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut savoir. Il faut connaître notre Dieu. Notre Dieu n'est pas comme les autres dieux des autres religions. Notre Dieu veut que nous ayons une relation intime avec lui. Les autres dieux ne sont pas comme ça. Une fois, mon mari était en train de témoigner avec un musulman. Le musulman a fait beaucoup de débats. Et enfin, mon mari a dit, mais est-ce que tu connais ton Dieu? Et le musulman était choqué. Ben non, on ne peut pas connaître Dieu. Et mon mari a dit, moi je connais mon Dieu. Notre Dieu n'est pas comme les leurs. Notre Dieu nous connaît et il veut que nous le connaissions aussi. Alors, David, tout seul, il prie, Dieu lui parle, il parle à Dieu, Dieu parle à lui, et il connaît son Dieu. Et il connaît Dieu plus que toute autre personne. Parce qu'il est là avec les moutons, il passe plus de temps avec Dieu qu'avec son père, avec ses frères. Et là, il trouve quelque chose de précieux. Dieu devient vraiment son meilleur ami. Il se fie plus à Dieu qu'à son père, qu'aux frères, qu'à toute personne. Sa confiance est en Dieu parce qu'il connaît son Dieu. Pour nous, nous n'avons pas beaucoup cette opportunité d'être toute seule pendant longtemps avec Dieu. Et puis un jour, David est là avec ses moutons. Et il y a un serviteur qui arrive de la maison. Tiens, il faut aller à la maison. Et David, quoi? Il faut aller à la maison? Oui, oui. Alors, je resterai avec les moutons. Il faut que tu ailles à la maison. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Et David, toujours jeune, il arrive à la maison. Et qui est là, c'est Samuel, le prophète d'Israël. Et tout ce qu'il dit se réalise. Et les Israélites, ils savaient ça. Et David est là, il voit qui est-ce? C'est Samuel. C'est Samuel. Et Samuel prend une corne d'huile et le verse sur la tête de David. Est-ce que David a demandé ça? Non. Est-ce qu'il a cherché ça? Est-ce qu'il a rempli des fiches pour que ça se passe? Non. Il était là avec ses moutons, quelqu'un lui appelle et joup! Et David et toute la famille qui était là savaient exactement ce que ça voulait dire. Qu'il serait le roi d'Israël. Et la Bible dit que l'Esprit Saint est venu sur lui à ce point-là. Ses frères le voyaient aussi. Et probablement, ce n'était pas une bonne chose. Parce que normalement, pour un grand frère, d'apprendre que mon petit frère sera le roi au-dessus de moi, ce n'est pas de bonne nouvelle. Normalement. Et David, il avait plusieurs grands frères qui ont reçu ces nouvelles que ton petit frère sera le roi au-dessus de toi. Et probablement, ça a fait un peu de difficulté pour David, mais peut-être pas trop parce que David a été renvoyé aux moutons. Il retourne aux moutons avec le Saint-Esprit et continue à garder les moutons. Les grands frères, ils partent à la guerre. À ce temps-là, en Israël, la guerre était constante. Sauf quelquefois en hiver, on prenait une pause. Mais Israël était attaqué par les Ammonites et les Amalécites et les Hittites et les Jébusites et les Hittites et aussi les Philistins. Comme Israël toujours est attaqué par ceux qui sont autour d'elle. Mais la guerre était en constant. Alors les frères de David, ils partent à la guerre. David retourne aux moutons. Et quelques temps après, le papa de David apprend que la guerre est maintenant dans la vallée de Elah, qui n'est pas loin de Bethléem où ils habitent. La guerre vient plus proche. Et il demande à David, je veux t'envoyer à tes frères avec des provisions, avec des choses à manger. Et aussi, dis-moi comment ça va avec eux. Et David, il laisse encore les moutons avec un serviteur. C'est une bonne leçon de laisser tes moutons avec un serviteur, ne les laissez pas toutes seules. Mais David, il part à la guerre. Et là, à la guerre, il entend le défi de Goliath qui fait son défi chaque jour pendant des jours, 40 jours. Et David l'entend et il entend que Goliath insulte le Dieu d'Israël. Goliath a insulté leur Dieu. Point 1. Ça veut dire que Dieu ne va pas aider Goliath. Deuxièmement, David a la promesse de Dieu qu'il sera le roi d'Israël. Et puisque la promesse n'a pas encore été remplie, il ne peut pas mourir. Alors là, David, très logique, Goliath va mourir parce qu'il a insulté mon Dieu. Moi, je ne peux pas mourir parce que la promesse de Dieu pour moi n'a pas encore été remplie. Alors, ça doit être à moi d'aller rencontrer Goliath. Et il va au roi et dit, bon, d'accord, je vais le faire. Le roi dit, non, tu ne peux pas. Il insiste, le roi lui envoie. Et David, avec un caillou et sa fronde, il tue le géant qui voulait faire de tout son pays des esclaves. Parce que si Goliath avait gagné, le pays entier aurait été mis en esclavage. Et avec un caillou, il a libéré son peuple. Un caillou est la sagesse qui vient de savoir que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et à cause de ça, David a pu y aller et il a gagné. C'est la joie, n'est-ce pas? Wouh! Danger passé, victoire, victoire. Mais la victoire et la joie qui vient de ça n'a pas duré très longtemps. Parce que très peu de temps après la victoire, le roi a entendu des gens chanter que le roi a tué des milliers, mais David a tué des 10 000 000. Et tout de suite, quand le roi entend ça, il devient jaloux. Et il se rend compte que Dieu est avec David. Et il n'est plus avec moi. Alors, ma vie est en danger à cause de ce jeune homme qui marche avec Dieu. Il devient jaloux. Et après ce jour-là, la vie de David est en danger. Le roi essaie de le tuer. Premier plan, il fait de David le commandant de ses armées et l'envoie à la guerre, croyant que les ennemis vont le tuer. Mais David a toujours cette promesse de Dieu qui n'a pas encore été réalisé. Et il n'est pas tué. Il est toujours vivant. Et alors, le roi l'envoie dans des missions dangereuses pour qu'il soit tué par les ennemis. Mais David est toujours vivant. C'était vraiment une épreuve de la foi de David. Est-ce que tu crois vraiment dans cette promesse autant que tu vas toujours survivre? Et voyant que David est toujours vivant, le roi trouve un autre plan. Il découvre que sa fille Michal est amoureuse de David. et que David sait qu'il n'a pas l'argent pour se marier avec la fille du roi. Alors le roi a un plan. Si tu peux tuer une centaine de mes ennemis, tu peux te marier avec ma fille. Parce que le roi croit qu'en faisant cela, David va être tué. Mais il réussit. Il est toujours vivant. Parce qu'il croit dans la promesse de Dieu. Et ensuite, le roi envoie des assassins le tuer. Mais sa femme apprend ce qu'il va faire et David s'en échappe. Toujours vivant. Mais il faut aussi savoir qu'à ce point-là, David a dû s'enfuir. Et quand il s'est enfui, le roi a donné sa femme à quelqu'un d'autre. David est maintenant un fugitif. Il a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu la ville, l'endroit où il a grandi, il ne peut plus aller là. Il a perdu sa femme, il a tout perdu. Et maintenant, il est un fugitif. Tout le monde aura peur de lui aider parce que le roi veut le tuer. Et David, il court. Et ce qui est un peu bizarre, mais ça arrive des fois, des gens viennent à lui. Des gens qui sont endettés, des gens qui sont mécontents, des gens qui ont des troubles légaux, ils viennent à lui. Parce que ils disent, David est fugitif, moi aussi des problèmes, alors on s'unit. Et David voit tous ces hommes qui viennent à lui et on s'entraîne. Ils font de ça une armée. David leur apprend comment se battre, comment être un soldat, comment se battre ensemble, comment faire la guerre. Et avec ces hommes qui deviennent 600, David a une petite armée. Et il y a aussi leurs femmes et leurs enfants qui viennent avec. Ça devient un peu compliqué d'être fugitif avec probablement 1500 personnes. Mais David a la promesse de Dieu et il est toujours vivant. Et maintenant, il a aussi une petite armée. Le roi continue à le chasser. Il va de ville en ville, de vallée en montagne, dans les cavernes, sur les falaises, pendant des années. Et en fin de compte, David se dit, ce n'est plus possible pour nous de se fuir tout le temps. Il y a trop de monde, c'est pas possible. Et pour ceux d'entre vous qui avaient jamais expérimenté la guerre, vous pouvez imaginer comment c'était. Alors David se dit, il faut aller à un autre pays. Mais pour David, ça doit avoir vraiment été difficile. Parce qu'il était dans le pays de Dieu. Et les autres pays, ce sont les pays des faux dieux. Et peut-être ceux d'entre vous qui sont venus en France, étant chrétiens avant, peut-être ça vous a inquiété aussi un petit peu. Je viens d'un pays où j'ai des chrétiens autour de moi. Et je vais dans un pays où presque tout le monde est païen. Et là, David a vu ça. Mais ils sont allés chez les Philistins. À ce point-là, David a dit en Samuel 26, 19, « Puisqu'ils m'ont banni pour m'empêcher de rester dans le pays accordé par l'Éternel comme possession à son peuple. » Au fond, c'est comme s'il disait, « Va adorer des dieux étrangers. » Comme s'il voulait bannir David de son Dieu. Mais David, qui a eu une relation intime avec Dieu quand il était dans les lieux solitaires avec les moutons, savait que Dieu est Dieu partout. Que si je vais là-bas, Dieu est là. N'importe où je vais, Dieu est là. Ils ne peuvent pas me séparer de mon Dieu. Et David va chez les Philistins. En fait, David va à Gath, la même ville d'où venait Goliath, le géant qu'il avait tué avec le caillou. Et vous pouvez imaginer, c'était peut-être un cas où il y avait un peu de tension dans la ville. Parce que sans doute dans cette ville, toute la famille de Goliath était là et ils voyaient le jeune homme qui avait tué Goliath. Probablement, on n'était pas tout à fait à l'aise là. Et David dit au roi, « Ben, je ne suis pas digne de rester dans la capitale avec le roi. Envoie-nous à un petit village. » Et le roi des Philistins les envoie à Ziklag. En fait, il leur donne la ville. Vous pouvez vous installer là. Enfin, chez les païens, ils ont un endroit où ils sont un peu en sécurité. On n'a plus besoin de courir parce que le roi d'Israël, il ne viendra pas dans le pays des Philistins. Alors, on peut se reposer un petit peu. Un peu d'espoir. Et peu après, un autre petit bout d'espoir. Le roi des Philistins invite David avec son petite armée d'aller à la guerre contre le roi d'Israël. Et David sait, si je vais avec eux à la guerre contre Israël, ça me donnera une opportunité d'aider mon peuple. Et peut-être si je réussis, je pourrai retourner dans mon pays, le pays que Dieu a accordé à son peuple. Un peu d'espoir. Alors David, il rassemble son armée et ils vont partir à la guerre. Mais là, les autres rois des Philistins disent, « Mais ça, c'est un homme d'Israël. Et nous allons à la guerre contre Israël. » Et aussi, c'est un champion. Et si ce champion tourne contre nous pour aider son peuple, ça pourrait vraiment être un souci. Et il insiste que le roi des Philistins renvoie David avec son petit armée, il ne peut pas aller à la guerre. Espoir disparu. Alors, David et la petite armée, ils retournent à Ziklag. Peut-être un peu découragés. Mais quand ils arrivent à Ziklag, ils trouvent que la ville est brûlée à terre. Il ne reste rien. Et leurs familles et leurs possessions qui étaient là ont été confisquées. Leurs familles, leurs enfants, leurs femmes ont été pris en captivité par quelqu'un. Tout le monde disparu, la ville brûlée à terre. Tout espoir maintenant disparu. Et l'armée de David, si David comptait à ce point-là sur son armée de l'encourager, il aurait été dessus. Parce que l'armée est tellement découragée, la seule idée qu'ils ont, c'est de lapider David. Il y aura des fois quand tu auras des afflictions, et tes amis, tes proches sur lesquels tu comptes, ah oui, ils sont avec moi. Ce sont mes proches. Je peux compter sur eux. Et tu vas trouver que tu ne peux pas. La seule personne à ce point-là sur laquelle tu peux te compter, c'est Dieu. Mais David savait que si j'ai Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Si j'ai Dieu, c'est OK. Si j'ai Dieu. Mais son armée parle de lui lapider. Alors pourquoi lapider? C'est une armée. Normalement, une armée ne lapide pas. Dans le Torah, les premiers 5 livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Torah, ont lapidé quelqu'un qui avait maudit Dieu ou qui avait désobéi à un commandement direct de Dieu. La lapidation était réservée pour ces deux crimes. Maudire Dieu ou désobéir à un commandement direct de Dieu. Alors quand l'armée parle de lapider David, ça veut dire qu'il croit que David a maudit Dieu ou il a désobéi à Dieu. Alors là, David est tout au bout, écrasé par des circonstances. Et ses proches pensent que ça doit être parce qu'il a péché. Ils l'accusent par leurs mots.
Si nous sommes dans une situation comme ça, ça doit vouloir dire que tu as péché. Mais David n'avait pas péché. En fait, quand David avait tué Goliath avec le caillou, en fait, il avait lapidé Goliath. Parce que Goliath avait maudit le nom de Dieu d'Israël. Mais maintenant, ses soldats parlent de lui lapider. Qu'est-ce que David fait? 1 Samuel 30, verset 6. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Ça, c'est Summer ou en second. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Jésus a promis que nous aurons à souffrir des afflictions et qu'il y aura une victoire. Mais comment est-ce que David savait ça? Parce qu'il a vécu longtemps avant Jésus sur la terre. Souffrir, victoire. Les mots des amis qui nous aiment, mais qui ont peur ou qui s'inquiètent ou qui sont attristés, souvent ils disent des mots qui peuvent nous faire mal. Mais quand tu n'as que le Seigneur avec toi, il faut que tu saches que Dieu est amour, que Dieu est fidèle, que Dieu a un plan et que Dieu garde ses promesses. Des fois, tout semble perdu, mais ce n'est pas la fin. Ça semble que c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. Tout sera OK à la fin. Si ce n'est pas OK, ce n'est pas la fin. Mais il faut aussi avoir de la sagesse, de pardonner ces gens autour de toi qui disent des mots qui blessent au moment où tu as besoin de quelqu'un pour t'encourager. De savoir s'appuyer sur Dieu et peut-être même rire quand quelqu'un te dit des mots blessants. Ou si ce n'est pas rire, de ne pas te soucier pour ces mots. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Où est-ce qu'il a appris à faire ça? Quand il était tout seul avec ses moutons et avec son Dieu. Il a appris que quand tu es tout seul, tu n'es pas tout seul. Et là, quand David est encore une fois tout seul, entouré des ennemis, il sait qu'il n'est pas tout seul. David connaissait Dieu mieux que toute autre personne. Alors, avec Dieu, il reprit courage quand tout autre était contre lui. Et quand David a quitté Israël pour aller chez les Philistins, il a écrit Psaume 141. Je vais vous le lire, ce n'est pas très long. C'est ça que David a écrit quand il a été obligé de quitter son pays. « Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. » Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placée devant toi. Et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Parce que David savait que quand il n'était pas en Israël, il n'avait plus le droit d'apporter des offrandes à Dieu parce qu'il fallait les apporter en Israël. Alors, considère ma prière comme de l'encens placée devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche au Éternel reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ce dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables. Comme si on labourait et herçait la terre, voici que nos os sont dispersés à l'oreille du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, qui se tourne mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sur mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leur propre piège et que moi je passe sur le chemin sans dommage.
David se confiait à l'Éternel. C'est toi qui m'as donné la promesse, toi tu vas garder la promesse. Les premiers missionnaires qui sont allés en Fidji, vers le début du 20e siècle, sont allés là en bateau parce qu'il n'y avait pas encore d'avion. Et quand ils sont arrivés à l'endroit où ils allaient débarquer du bateau pour entrer dans leur champ de mission, tout d'un coup, le capitaine leur a dit, « Je refuse de vous laisser partir là. C'est trop dangereux, ils vont vous tuer. » Et les missionnaires ont regardé le capitaine du bateau dans les yeux et ont dit, « Nous étions morts avant de quitter notre pays. » Déjà, ils savaient qu'il faut se confier en Dieu. Parce qu'il y aura des afflictions. Et il faut que tu saches que Dieu peut t'aider, que Dieu peut garder ses promesses. Jean 16, 33 encore. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Souffrir, victoire. Je peux aussi vous parler un petit peu de Job. Quand j'étais jeune, je me suis convertie et on m'a dit, avec sagesse, qu'il faut lire la Bible au moins une fois par an pour savoir ce que Dieu te dit. Alors j'ai fait ça et chaque année, j'étais obligée alors de lire le livre de Job et je ne l'aimais pas. Parce que ça m'a fait peur. Je me suis dit, si Job a expérimenté tout ça, ça pourrait dire que moi aussi, je pourrais avoir des souffrances comme ça et je n'aime pas cette idée. Et chaque année, mais avec du temps, avec l'âge, j'ai appris que Dieu ne permettrait jamais quelque chose qui soit insupportable pour moi, ni pour toi. Et Dieu me connaît. Il sait ce que je peux supporter et il sait ce que je ne peux pas supporter. La mère Thérèse qui a servi le Seigneur en Inde a dit, « Je sais que le Seigneur ne me donnera jamais quelque chose qui soit insupportable pour moi. » Mais des fois, je souhaite qu'il ne pensait pas tellement de moi. Et c'est parce que le Seigneur sait que tu peux réussir qu'il permet quelque chose de difficile. Comme vous les parents, vous faites à vos enfants. Vous obligez vos enfants d'apprendre à lire, ce qui est très difficile. Parce que vous savez qu'il peut le faire. Et vous voyez, les enfants apprennent à lire. Comme nous, nous apprenons à lire. Job aussi a appris le secret de puiser de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Job, c'est le livre qui a été écrit avant tous les autres livres de la Bible. Ce n'est pas le premier livre que tu vois dans ta Bible parce que les livres de la Bible sont organisés par des catégories. Les livres de la loi d'abord. Le livre de Job, on trouve plus loin, mais c'était le livre qui a été le premier à être écrit. Le premier livre que le Saint-Esprit a inspiré quelqu'un d'écrire, c'est le livre de Job. Ce qui me dit que ça doit avoir un message très important là-dedans. Parce que la première chose que Dieu dit par quelqu'un écrit à son peuple, c'est le livre de Job. Job était un homme qui était intègre et droit, sans faute, 20 sur 20. Il obéissait à Dieu. Et le diable a vu ça. Et il a décidé de prouver à tout le monde que des êtres humains servent Dieu seulement quand tout va bien. Et Dieu savait mieux que le diable, parce que Dieu est quand même très intelligent. Et il a dit non, même si tu enlèves tout ce que Job a, il va toujours me servir. Et le diable l'a fait.
Et Dieu l'a permis. Et Job ne savait pas ce qui était passé au ciel quand cela lui est arrivé. Tout ce que Job sait, c'est que ses 10 enfants sont morts dans une journée. Tout ce qu'il possède a disparu. C'était pris par des autres. Il a tout perdu. Il y a des gens qui font la queue pour lui apporter de mauvaises nouvelles. Dans une journée, tout perdu. Et sa femme lui dit de maudire Dieu et mourir. Ben, il ne faut pas accuser la femme de Dieu. Il ne faut pas la condamner. Je ne peux pas imaginer ce que c'est de perdre 10 enfants dans une journée. J'ai perdu un enfant. 10, je ne peux pas imaginer. Et si nous accusons la femme de Job, nous ne faisons pas mieux qu'elle. Elle avait beaucoup souffert. Mais si Job avait compté sur sa femme de l'encourager, il aurait été déçu. Parce que sa femme n'arrivait pas à le faire. Et ensuite, il arrive des 3 amis de Job, Zophar, Bildad et Eliphaz. Des bons copains, des camarades en temps de trouble. Et ils viennent et ils s'assient à côté de Job pendant une semaine sans rien dire. Ce qui est toujours le coutume en Israël. C'était le coutume là-bas. Quand quelqu'un est en deuil, les proches viennent juste pour être là, même sans rien dire, juste pour être là, pour qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Et après 7 jours, les amis commencent à parler, et à ce point-là, les choses vont de pire en pire. Parce que les amis commencent à insister que si tu as souffert, ça veut dire que tu as péché. Les souffrances viennent à cause du péché. Tu dois t'avoir péché. Et Job dit, non, je n'ai pas. Il continue à l'accuser pendant une trentaine de chapitres de la Bible. Mais Job savait qui était son Dieu. Et Job refuse d'accuser Dieu. Des fois, si tu es près de quelqu'un en deuil, ou quelqu'un qui souffre, c'est mieux de ne rien dire. Juste une petite astuce. J'ai une connaissance. Son mari est mort il y a une année. Et l'autre jour, quelqu'un a dit à elle, « Ah oui, je comprends pourquoi tu es triste. C'était comme ça quand j'ai divorcé mon mari. » Et elle a regardé. Elle ne l'a pas tapé. Mais je crois qu'elle avait envie. Ou une autre fois, quand il y avait une femme dont le fils était mort dans un accident, quelqu'un de l'église a dit, « Oh, c'est dommage que vous n'avez pas ressuscité des morts. Cela aurait fait un bon témoignage. » Ce n'est pas la bonne chose à dire. Ou quelqu'un qui va à une cérémonie funéraire, il regarde dans le cercueil et dit, « Ah oui, Joseph, tu es plus beau que jamais. » Des fois, quand tu comptes sur quelqu'un pour te dire l'amour qui va guérir, tu seras déçu. Il faut savoir écouter la voix de Dieu. Il faut connaître la vérité de Dieu si bien que c'est ça que tu entends, même quand des autres autour de toi disent des bêtises. Job avait besoin de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a 3 niveaux de sagesse dans la Bible. 3 niveaux de sagesse. On trouve le premier dans le livre de Proverbes. Si tu obéis à Dieu, tu seras béni. Si tu désobéis à Dieu, il y aura des conséquences qui ne vont pas te faire plaisir. Simple. Obéis, c'est bon. Désobéis, pas bon. Mais on trouve un autre niveau en Ecclésiaste. En Ecclésiaste, on apprend que oui, normalement, quand tu fais du bien, de bonnes choses t'arrivent. Et quand tu fais du mal, de mauvaises choses t'arrivent aussi. Mais des fois, tu vas faire du bien et tu vas voir des gens autour de toi qui font du mal et ils prospèrent. Ils sont riches. Et ils sont méchants. Mais même quand tu vois ça, c'est toujours mieux de servir Dieu. Et ça, c'est le deuxième niveau de sagesse. De ne pas compter pour ce que tu vois avec tes yeux pour décider si tu vas suivre Dieu. Mais il y a un troisième niveau de sagesse qu'on trouve dans le livre de Job. Et cette sagesse nous dit, même si tout ce que tu fais est bon, et si tout ce qui s'arrive, c'est mauvais, tu sers Dieu et tu souffres. Même dans des cas comme ça, quand même c'est mieux de servir Dieu. Job dit, du début du temps jusqu'à aujourd'hui, que si tu souffres, ça ne veut pas dire que tu as péché. Que c'est possible de souffrir sans avoir péché. Et c'est un message que Dieu nous a donné, le premier livre écrit dans la Bible. Comme ça, quand des souffrances t'arrivent, parce que les souffrances vont t'arriver, et des gens viennent t'accuser, tu peux te consoler avec le livre de Job. Si tu sais que tu n'as pas fait des péchés, tu n'es pas obligé de croire à tes accusateurs. Et enfin, Dieu répond à Job. Et Dieu ne lui dit pas, ben Job, il faut que je t'explique, Satan est venu, il m'a dit que tu vas me maudire si j'enlève tout ce que tu possèdes. Et alors je lui ai dit, bon d'accord, vas-y, parce que je savais que tu pourrais réussir. Dieu ne dit pas ça. Et Dieu ne lui dit pas, bon d'accord Job, j'ai fait cela parce que je sais qu'après tout cela, tu vas écrire un livre, je vais t'inspirer. Et ce livre va aider des gens au travers des siècles, dans tous les pays du monde entier. Des gens vont lire ton livre et ils vont être encouragés par ça. Et tu auras une récompense que tu ne peux pas imaginer à cause de ce que tu as souffert. Non, Dieu ne lui dit pas ça. Ce que Dieu lui dit, c'est « Je suis plus grande que tu te rends compte. Je connais des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu n'as pas vues, que tu ne peux pas expliquer. Mais tu peux faire confiance en moi, parce que moi, je peux tout. » Et c'est ça qu'il faut vraiment savoir. Oui, après ça, Job a eu une grande récompense. Il était 2 fois plus riche qu'avant et il a eu 10 nouveaux enfants après. Mais je crois que la récompense que Job aurait parce qu'il a écrit ce livre qui a fait du bien à autant de gens à travers des siècles, je crois que cette récompense sera encore plus grande. Souffrir, victoire. Avec tout ça, nous voyons que Dieu avait un plan pour Job. Et Dieu avait un plan pour David. Et ces plans avaient des souffrances là-dedans. Alors, quand il t'arrive de souffrir, n'hésite pas à croire en Dieu. Il ne faut pas tout le temps se demander si je souffre, ça veut dire que je me suis détourné de Dieu. Dieu nous a promis des souffrances. Bon, si tu te détournes de Dieu, tu vas certainement aussi souffrir. Mais la souffrance n'est pas l'indicateur. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il faut que maintenant tu cherches Dieu et tu trouves Dieu, que tu aies une relation forte et intime avec Dieu, que tu connaisses Dieu mieux que toute autre personne, mieux que ton époux, ton épouse, mieux que tes enfants, pour que tu puisses aussi faire comme David quand les souffrances arrivent. Parce qu'il ne s'agit pas de si, il s'agit de quand les souffrances arrivent. Il faut connaître ton Dieu. Il faut s'appuyer sur ton Dieu. Les afflictions sont promises et la victoire aussi. Mais si tu ne te prépares pas pour les afflictions, comment est-ce que tu auras une victoire?
Alors comment est-ce qu'on peut se préparer? Comment avoir une relation avec Dieu pour que tu le connaisses comme ça? Tu parles avec Dieu, avec plus que toutes les autres personnes. Tu trouves un temps où tu peux être toute seule avec Dieu, un temps et un endroit. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Et Dieu peut dire à ses anges, « Oui, je sais qu'il sera là. Il vient me voir chaque jour à 5 heures, ou à 8 heures, ou à midi. Mais Dieu sait que tu seras là. » Tu réserves des temps libres pour Dieu. Des fois, s'il t'arrive, c'est pas très souvent avec les parents, j'oublie comment c'est quand on est parents, mais tu as un peu de temps libre, tu as un après-midi où tu n'as rien à faire, va passer du temps avec Dieu. Fais une promenade avec Dieu dans la forêt, une randonnée avec Dieu. Prends du temps pour être avec Dieu. Et télécharge cette Bible dans ta tête. Remplis la tête avec ce que Dieu dit. Comme ça, quand quelqu'un te dit quelque chose qui est contraire à ça, c'est bloqué par l'antivirus de ta tête. Tu sais ce qui est vrai. Et ce qui est faux, tu le reconnais tout de suite comme faux. Mais je veux vous dire une autre chose pour vous encourager. Les afflictions ont une fin. Ce n'est pas tout le temps. Et ce n'est pas trop longtemps non plus. Ça semble que c'est trop longtemps. Mais ce n'est pas trop longtemps. On ne peut pas voir la fin quand on est là-dedans. Quand on est malade, on ne sait pas combien de temps on sera malade. En parenthèse, la semaine dernière, nous étions malades. On a trouvé des microbes à Marseille, là où on a vu vraiment la main du Seigneur s'agir. Et vous avez prié pour nous. Merci. Vous voyez, les afflictions ont une fin. Cette semaine, toute la famille était là et il n'y a plus de nez qui coule, il n'y a plus d'éternuer. Ça va. Merci d'avoir prié. Mais quand on est dans une affliction, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas. Mais Dieu sait. Et il sait combien tu peux supporter. Je vais vous raconter, il y a quelques années, que je travaillais avec quelqu'un que Dieu a envoyé dans ma vie pour m'aider à devenir plus comme Jésus. Vous comprenez? C'était quelqu'un de difficile. Quelqu'un qui m'a fait beaucoup prier. Quelqu'un qui était embêtant. Et je savais que je travaillerais avec cette personne pendant 2 ans. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux supporter ça pendant 2 ans? Et j'ai prié. Et j'ai essayé d'être plus comme Jésus. Quelquefois, je réussissais. Mais une année après le début de cette épreuve, cette personne a démissionné. J'ai été choquée. Je ne croyais pas que c'était possible que l'épreuve finisse plus vite que j'avais imaginé. Mais Dieu savait. Dieu savait. Tiens, Christine, elle est au bout, elle ne peut plus. Et cette personne qui m'a fait autant de peine était partie, démissionnée. Ce n'était pas ce qu'il avait planifié. Mais je vois que Dieu s'est occupé de moi. Nous avons une vie éternelle. Vous allez vivre 4 milliards d'années et ensuite 4 milliards d'années après ça. Et ensuite, si vous pouvez imaginer ça, moi je ne peux pas. Mais cette vie que nous avons ici, c'est comme un grain de sel dans l'océan Pacifique contre l'éternité. Et les souffrances que nous avons maintenant nous donnent l'opportunité de connaître notre Dieu et d'avoir aussi des récompenses pour l'éternité. Ne soyez pas découragés par ce qui ne peut pas durer trop longtemps. Dieu est avec vous, même quand il vous semble loin. Des fois, je prie, ou j'ai prié, et il me semblait que les prières, ils disparaissent aussitôt que je les dise, que Dieu ne l'entend pas.
il me semblait.
Est-ce que c'est vrai?
Non. Et la Bible dit ça. Mais des fois, ce que je sens n'est pas la réalité. Je veux vous rassurer que Dieu est là, même quand il semble qu'il n'est pas là. Que les afflictions ont une fin et que nous avons une vie éternelle. Ça vaut la peine de faire la connaissance de notre Dieu. Merci.